Ouais, mon lieutenant.
Seconde.
Pour clôturer cette fin d'année, et pourquoi pas alimenter le passionnant débat avec un tonton capitaliste ou avec ses belles-sœurs libérales, nous sommes dit que notre première émission sur les communs pouvait s'avérer fort utile pour vous. Donc, c'est parti. Qu'entendons-nous par commun ou bien commun ? Et pourquoi est-il important de les aborder ?
Donc, je pense qu'il y a un triple intérêt politique. Le premier, c'est que cette notion de commun donc, dépasse l'alternative de ou l'État ou le marché. Donc, je pense que c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a une troisième alternative possible. Donc, il dépasse l'alternative propriété publique, propriété privée. Donc ça, il me semble que c'est le premier intérêt donc qu'on pourra tout à l'heure concrétiser grâce à Wally, par exemple, et puis sur les biens publics français qui aujourd'hui donc se construisent un peu partout. Donc le deuxième intérêt politique, c'est que c'est une critique en acte donc du néolibéralisme. C'est-à-dire que le néolibéralisme, pour faire vite, donc c'est un principe économique, le marché régule l'économie. Un principe social, donc on est tous entrepreneurs de soi-même, mais il faut augmenter son portefeuille de compétences. Et un principe politique, et aujourd'hui on le voit, donc c'est que l'État doit transformer la société pour justement imposer donc ces deux principes fondamentaux-là. Or, les communs, c'est justement donc un processus politique, une action politique qui va donc mettre en qui va être une critique en acte de cette intervention de l'État. Et le troisième intérêt politique, c'est bien évidemment qu'aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de mouvements sociaux en France et ailleurs, qui essaient donc de mettre en avant et de mettre en œuvre donc cette politique des communs et de créer des communs. Donc on peut penser effectivement au mouvement des places, on peut penser à la ZAD de Nantes, mais il y en a effectivement bien d'autres. Donc ça, c'était le premier enjeu, me semble-t-il. Le deuxième enjeu, c'est donc pour faire très vite. On va donner une définition très rapide des communs qu'on va reprendre tout au long de l'émission, en fait, puisque cette définition, elle évolue dans le temps et elle évolue justement grâce aux mouvements sociaux. Donc, pour faire vite et pour faire simple, il me semble qu'on peut prendre, partir d'un exemple le plus simple possible, donc un bien commun matériel naturel, c'est un peu donc ce que Wally nous dira tout à l'heure. Donc si je prends l'exemple d'un étang, d'un lac ou d'une pâture, donc il devient commun à deux conditions. C'est première condition, donc qu'il y ait une propriété collective de ce bien naturel. Sauf que, effectivement, donc, par exemple, un village peut très bien posséder une pâture, un étang, etc., donc propriété collective. Sauf qu'effectivement, si on prend le bien commun naturel, en fait, il y a un problème qui se pose, c'est celui de la rareté des ressources. Donc, si je reprends l'exemple de l'étang, ou si je reprends l'exemple du lac, etc., ou même de la pâture, on peut avoir ce qu'on appelle en économie, mais tout le monde peut comprendre le principe, donc un passager clandestin, c'est-à-dire celui qui va pêcher un maximum de poissons dans l'étang ou dans le lac, celui qui va faire paître énormément donc de vaches ou bœufs.
Il faut que le partage de la ressource soit équitable, en fait.
Voilà, c'est ça.
Tout le problème est là, en fait.
Ouais. Et donc, du coup, c'est la deuxième condition, c'est qu'effectivement, propriété collective, mais que l'ensemble de ces propriétaires, entre guillemets, donc édictent des lois communes, donc pour que ça devienne vraiment un commun. Donc il faut élaborer donc des règles d'usage, il faut s'auto-organiser, il faut agir en commun, il faut donc débattre, ça va donc ressembler effectivement à une certaine démocratie directe. Et donc, effectivement, le bien devient commun. C'est-à-dire que tout le monde y a a accès à ce bien commun-là sous des règles qui ont été dictées par l'ensemble des gens qui possèdent ce bien commun. Donc c'est ces deux caractéristiques-là qui font qu'un bien commun naturel devienne effectivement véritablement commun. Hein, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de biens communs, mais ils ne deviennent pas communs, en fait. Hein. Ils pourraient l'être, mais ils ne le sont pas.
Et pourquoi ils ne le sont pas?
Ben parce que...
Qu'est-ce qui empêche justement qu'ils le deviennent?
Il y a un accaparement des multinationales, et des... Oui. Enfin, notamment sur l'eau, par exemple, à Vittel... C'est Nestlé qui pompe toute l'eau de source pour nous la mettre en bouteille, hein, au détriment de la population locale. Et du coup, ils sont obligés de faire venir pour la population de l'eau de plusieurs kilomètres, faire des canalisations spéciales pour ça, alors qu'ils ont de l'eau de source tout à fait bonne, normalement, dont ils pourraient disposer.
C'est une appropriation privée de ce qui pourrait être un commun, en fait. Hein.
D'accord. Et donc, ce commun-là devient un bien privé, au final.
Voilà, un bien privé. D'accord. Alors, troisième point, me semble-t-il, intéressant, c'est qu'il faut faire une différence rapide avec le commun et le bien public. Donc, un bien public, c'est simple. Hein. Je prends l'exemple du phare, je prends l'exemple de l'éclairage public, etc. Donc, il est financé par l'État. C'est quand même la grande différence. Hein.
La grande différence, mais on peut avoir un État qui œuvre pour le commun. Si on part du principe que l'État, c'est nous tous, on contribue tous, un bien public pourrait être un bien commun. Si dans un autre système de.
Si l'État
de
était vraiment démocratique, mais c'est un peu un oxymore, en fait, j'ai l'impression, l'État démocratique.
Je voulais pas employer ce terme-là, mais on s'est compris. Mais vas-y, continue.
Donc je pense qu'effectivement, justement, hein, c'est ce que j'avais dit au début, c'est-à-dire que ça va. C'est une alternative qui va au-delà du marché et de l'État, parce que l'État, il a une. Il a donc une logique à lui qui fait que ce ne sont pas effectivement les gens qui ont usage qui édictent les règles et les lois pour l'usage de ce bien commun-là.
Oui, mais l'État pourrait l'avoir. Et la question est, est-ce qu'on a déjà eu un État qui œuvrait pour le bien commun ou pas?
Moi, j'ai jamais.
On s'en rappelle plus.
Non, ou même des débuts de.
Mais trop jeune.
D'accord. Ok.
Quand l'électricité était nationalisée, totalement.
Ben oui, mais je pense que quand même qu'il y a une logique de domination, puis une logique de gestion étatique, quoi.
Oui, mais c'était pour le bien commun.
C'était pour le bien commun, mais c'est.
Oui, mais la gestion ne correspond pas à la gestion d'un commun, en fait.
Oui, parce que c'était pas géré démocratiquement les usagers.
C'est ça. Enfin, il me semble que c'est ça. Moi, je ne suis pas spécialiste des communs, mais...
Oui, mais bon, je pense qu'il faut également parler des biens communs quand on l'entend en économie. Donc, c'est des biens qui sont caractérisés par la propriété de non-exclusivité et rival. Voilà. Il faut que ces deux conditions...
Est-ce que tu peux définir rival
soient réunies? Oui, bien sûr, parce que la non-exclusion signifie la non-rivalité d'abord, implique que l'usage... d'une unité de bien par un agent économique ne prive pas autrui de la jouissance de cette même unité de bien, par exemple. Et le principe de non-exclusion, qui signifie qu'une fois le bien produit, le bien est accessible à tous et qu'aucun individu ou aucun groupe n'a l'exclusivité d'accès à celui-ci.
D'accord. Donc voilà. Pour résumer, à l'heure actuelle, on est à 10 milliards d'années-lumière du bien commun.
En fait. Voilà. Donc c'est ça, en fait. D'accord. Donc de ce qu'on entend par commun en économie, voilà, ça serait bien de le préciser. Et puis après, dans la littérature également, le commun peut aller au-delà. Hein. Comme par exemple, des systèmes de ressources qui sont également des communs. Et nous allons y revenir tout à l'heure dans la présentation.
Oui. Ok.
Un quatrième point pour essayer donc d'anticiper ce qu'on va dire plus tard, c'est qu'effectivement, il y a une évolution hein, de la notion de commun. Et donc, avec tous les problèmes écologiques aujourd'hui, donc, il y a donc une définition des biens publics mondiaux, dont on parlera tout à l'heure, donc, comme l'eau, la qualité de l'air, la biodiversité, etc., donc, qui peuvent devenir des biens communs, peut-être, ou pas, pas du tout. c'est pas le chemin qu'on prend. Il y a aussi les biens publics numériques dont on pourra parler tout à l'heure, hein, parce que pour le coup, il n'y a plus de rivalité du tout, hein, sur un bien public numérique, puisque tout le monde... Si moi, je consomme du Wikipédia, j'empêche pas les autres de le faire. Et dernière évolution, on peut passer des biens communs au commun lui-même, à le commun. Et le commun, en fait, c'est plus vraiment un bien. C'est simplement le fait que lorsque les gens donc prennent en charge leur métier, hein, je prends l'exemple donc le plus récent, par exemple à l'hôpital, lors de la première vague, si on prend le collectif urgence, si effectivement, enfin qui a géré effectivement les hôpitaux lors de la première vague de pandémie du Covid-19, ce sont bien les infirmières, etc. Et donc là, il y a donc qui ont été au-delà, hein, des rapports hiérarchiques, chirurgiens, infirmières, etc., elles ont bien mis en œuvre donc effectivement une gestion collective, hein, pour essayer donc d'éviter le pire. Et ça peut s'appeler le commun. Il n'y a pas de bien, en fait.
Effectivement, ce sont les arrangements institutionnels là qui sont également des communs.
Oui, on a déjà vu ça quand tu as des employés qui rachètent leur usine à un moment donné pour faire survivre leur travail. Oui.
Ah oui,
on peut rapprocher. Oui.
LIP, c'était de l'autogestion, c'était une entreprise privée qui est devenue un commun. Voilà.
Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire que les SCOP sont des communs?
Je pense que oui, bien sûr. Tout ce qui fait partie de l'autogestion, en fait... Hein, ouais. Peut être défini sous le terme de commun. Donc là, il y a une évolution du terme, quoi.
Mm-hmm. D'accord. Ok. On fait une petite pause musicale et Wally, tu nous parles de ton exemple juste après ?
D'accord.
Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste.
Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien.
Alors Wally, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience?
Oui. Donc avant de venir sur mes expériences de terrain, sur les communs, je vais un peu revenir sur les points saillants que Jean vient d'évoquer, portant sur la littérature des communs, notamment dans leur mode de gestion. D'accord. Et une question qui revient le plus souvent, une question cruciale sur laquelle porte une bonne partie de cette littérature académique, concerne le régime d'accès. Le régime d'accès aux ressources et plus généralement le régime de droit de propriété. Donc le problème qui se pose le plus souvent en termes de diagnostic général, c'est que la question de la surexploitation des ressources naturelles, des pêches, des ressources halieutiques dont je vais parler par la suite, est un problème d'une mauvaise appropriation ou l'absence d'appropriation. Voilà, c'est cette question-là qui revient. Donc c'est l'alternative que Jean vient d'évoquer, à savoir la propriété privée ou la propriété publique, donc, qui sont ceux qui doivent gérer ces ressources. Donc dans l'investigation de cette littérature, on voit alors deux blocs de lecture. Donc, ce qui pose cette question de la surexploitation comme une question d'une mauvaise appropriation ou l'absence d'appropriation, il apparaît ainsi les travaux de Hardin, que sans doute vous connaissez, hein, sur la tragédie des communs. Voilà, c'est un célèbre article que Gareth Hardin a écrit. Il montre que les ressources qui n'ont pas de propriété exclusive sont vouées à la surexploitation.
D'accord.
Donc il faut que les ressources soient appropriées, selon lui, soit privativement, soit de manière étatique. Voilà. Donc ce sont les modes de gestion pour éviter la tragédie des communs, selon Hardin. Mais avant lui, il y avait d'autres auteurs qui se sont inscrits dans cette même lignée, à savoir Gordon en économie des pêches et la nouvelle économie des ressources également avec le néolibéralisme. Voilà. Ils sont dans cette dynamique pour répondre à cette question de la surexploitation des ressources.
Mais... Attends, je te coupe. Pour éviter la surexploitation, parce qu'en fait la surexploitation vient de la non-appropriation. Et donc, pour éviter ça, il faut que quelqu'un se l'approprie. Donc, si une entreprise privée s'approprie tous les biens sur Terre...
Effectivement.
D'après Hardin, il n'y a pas de problème. En fait, il ne peut pas se surexploiter.
Voilà.
Je ne sais pas.
S'il est raisonnable, il ne doit pas surexploiter. Mais après, on en est loin. Quoi.
D'accord.
Okay, si l'homme était raisonable, la Terre n'en serait quand même pas là.
C'est ce qu'il essaie de défendre.
Oui. Hein,
voilà. C'est déjà critiqué. Hein. Je suis pas mal de critiques parce qu'il confond même le commun et le libre accès, en fait. Donc, ce qui conduit à la tragédie, ce qui conduit à la ruine, ce n'est pas le commun. En tout cas, même si c'est un commun non géré, en fait. Donc, son article a été publié en 68, mais dans la même revue, on l'a invité en 1998, donc disons 20 ans ou 30 ans plus tard. Il revient encore sur ses propos. Il dit que ce que j'ai décrit, il ne s'agit pas de la tragédie des communs, mais de la tragédie du libre accès, des unmanaging commons.
Oui. Voilà. Ça, pour lui, un libre accès, c'est un commun qui n'est pas géré.
Ce sont des communs non gérés, donc qui conduisent à la tragédie.
Oui.
Bien sûr, parce que voilà, dans les communautés humaines, on trouve des gens qui s'auto-organisent. Voilà. On va parler des communs, pourtant, ce n'est pas du libre accès. Il y a des modes de gestion qui sont derrière. Voilà, il y a des modes de gestion, il y a telle période qu'on doit pêcher, il y a telle période qu'on doit faire ceci, qu'on doit faire cela. Il y a des règles de gestion qui sont derrière. Et ces règles de gestion, oui, il faut les entendre. Ce n'est pas du libre accès.
Voilà. Ça marche.
D'accord.
Voilà, donc pour Hardin, c'est ça, il faut que les ressources soient appropriées de manière privée ou
donc, soit.
Ouais. Donc il met en scène ainsi un pâturage qui est accessible à tous. Il dit que si les ressources ne sont pas appropriées, chaque berger va chercher à maximiser son gain en amenant à chaque fois autant d'animaux que possible dans le champ commun et en empêchant les autres de prendre un avantage sur lui. En fait, c'est cette logique de chacun pour soi, premier arrivé, premier servi, first come, first survive, qui conduit à la ruine de tous, qui conduit à la surexploitation dans sa logique. Voilà. Maintenant, à côté de l'État et le marché, il existe d'autres moyens de coordination, à savoir l'action collective également, qui est un troisième moyen de coordination pour éviter cette tragédie. Donc, cela a été abordé dans les travaux comme les travaux de Ostrom et de l'école Bloomington, qui montrent qu'il existe des arrangements institutionnels, j'en viens de l'évoquer par les hôpitaux, mais les exemples qu'elle a fournis avec l'école Bloomington, c'était dans les nappes phréatiques, la gestion de l'eau, ainsi de suite, qui, donc des populations qui sont autorégulées, en tout cas qui sont organisées pour défendre leurs ressources, en tout cas les ressources de leur terroir.
D'accord.
Voilà. Donc, à travers cela, je vais encore vous montrer un peu cette complexité des communs. On a passé d'un bien à un mode de gestion, à des arrangements institutionnels. Donc, c'est pourquoi, pour comprendre ce troisième moyen de coordination qui est l'action collective, il faut le situer, en tout cas, il faut comprendre que les communs sont associés à des CPR, qu'on appelle les Common Pool Ressources. Donc, ce sont des systèmes de ressources. Parce que dans leurs travaux, ils différencient système de ressources et unité de ressources. Les systèmes de ressources, par exemple, sont la pêcherie. Voilà, l'unité de ressources et le poisson, un exemple. Mm-hmm. Voilà, donc il fait cette distinction entre unité de ressources et système de ressources. Donc, ce sont les droits de propriété donc, qui peuvent être distribués au sein de ces groupes d'individus selon divers arrangements institutionnels, en fonction des règles plutôt, des règles en vigueur au sein d'une communauté humaine. Donc, c'est sur ce point-là que... je vais rebondir sur mes cas d'études au Sénégal parce qu'il existe des cas d'action collective qui sont initiés ou suscités par des pêcheurs locaux qui font penser à ces problématiques d'appropriation des ressources. Voilà. Donc, j'ai étudié deux communautés de pêcheurs, à savoir les Kayarois et les Gandariens. Ce sont des pêcheurs qui habitent tous dans la grande côte du littoral sénégalais. Donc, les Gandariens, eux, ils sont plus des nomades. Donc, ils migrent le long du littoral sénégalais et ils vont même au-delà, dans la sous-région, en Mauritanie, en Guinée, parce que pour eux, les ressources sont libres, il n'y a pas... lieu qui oui. Voilà qui est des barrières,
il n'y a pas de frontières,
pas de frontières. C'est une logique un peu au sens
d'un peuple
quoi.
Nomade, c'est logique,
ça bouge,
voilà, les ressources bougent, donc il faut les suivre,
Les ressources. Et dans ce cas là est-ce qu'ils sont conscients que d'autres personnes peuvent bouger aussi comme eux et donc ils se retrouvent sans ressources, s'ils partent du principe que les ressources n'appartiennent à personne et donc à tout le monde, est-ce qu'ils ont conscience que peut-être les ressources peuvent venir t'en manquer justement?
Mais ils interprètent la rareté de la ressource autrement, suivant leur logique. Parce que pour eux, les ressources, c'est un don de Dieu. Et puis, c'est pas à l'homme de s'en occuper de cette manière. En fait, leur entendement, la question du repos biologique, oui, ça leur entend de plus en plus maintenant avec l'arrivée des organisations non gouvernementales. Mais leur logique de départ, c'est que le problème de la surexploitation des ressources vient d'ailleurs. Ce n'est pas une question d'exploitation abusive.
Eux, ils prennent ce dont ils ont besoin, point barre. Ce n'est pas eux qui sont à l'origine de la surexploitation.
Mais
eux rentrent en concurrence avec les pêcheurs qui viennent des pays occidentaux et les chalutiers surtout, qui raflent énormément.
Effectivement, c'est ça qui entre un peu en contradiction avec leurs propos, bien sûr. Voilà. Parce que vous le dites, ce sont les bateaux étrangers, par exemple, qui sont là, qui pêchent tout. Voilà. Donc ça aussi, c'est une question qu'on peut interpréter suivant leur logique, donc leur stratégie de pêche également. Mm-hmm. Voilà. Contrairement aux autres groupes de pêcheurs que j'ai étudiés, à savoir les Kayarois, eux, ils sont plutôt des pêcheurs agriculteurs. Donc ils sont plus sédentaires, donc ils ont deux activités, la pêche et l'agriculture. Donc, comme ils sont sédentaires, ça a créé parfois des conflits entre ces deux communautés de pêcheurs. Lorsque les Gandariens viennent sur le territoire des Kayarois, ça crée le plus souvent des conflits entre ces deux communautés de pêcheurs. Mmh. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, pour compléter dans cette arène, bien sûr, j'ai assimilé la logique des Gandariens au sens de Hardin, la logique de chacun pour soi, et pour les Kayarois, que j'ai assimilé un peu une logique au sens de Ostrom, parce que comme ils ont établi des règles de gestion dans leur localité, donc il faut pêcher à la ligne, alors la pêche à la ligne est disons, un peu incompatible avec la pêche au filet qu'utilisent les guendariens, ça pose souvent un problème en termes de logique.
Oui, il y a un des deux groupes qui a vraiment structuré sa façon de pêcher, les lieux,
les zones de pêche, contrairement.
Et du coup, quand les nomades viennent, ça ne se passe pas trop.
Voilà, ça pose un problème, d'autant plus que les ressources halieutiques aussi restent un patrimoine national. Donc c'est à l'État de décider qui doit pêcher et dans quelles conditions. Combien, dans quelles conditions la pêche doit se faire.
Donc du coup, sur les nomades, on ne peut pas dire qu'il y a un commun. Si,
on peut dire que c'est un commun parce que dès lors qu'ils défendent leur identité, ils défendent leur terroir, donc ils
pour eux, c'est un commun.
Gestion également, c'est un commun. C'est un commun assez complexe, donc, mais quand même, oui, c'est un commun.
Oui, ouais. Alors, par contre, vu que pour repartir sur ma question, vu qu'ils ne se préoccupent pas du fait que ce commun se porte bien, par exemple, si la denrée devient rare, pour eux, ça ne les préoccupe pas. Pour moi, on est en dehors du commun, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, le commun, le bien commun, fonctionne quand c'est les personnes qui se chargent elles-mêmes d'assurer le bien, du bien commun, en fait.
Oui, en fait, c'est ça qui fait un peu l'évolution institutionnelle, en tout cas, est assez contrastée à ces niveaux. Parce que quand on voit les Kayarois, par exemple, avec leur mode de gestion, quand l'État est intervenu ou intervient dans dans leur mode de gestion en passant d'une logique du type top-down à une logique du type bottom-up, la logique top-down, c'est que c'est l'État qui fixe les règles à respecter. D'accord ? Il se trouve que dans cette logique-là, les politiques de pêche qui ont été adoptées, en tout cas, les résultats ne sont pas toujours escomptés. Donc l'État sénégalais est passé d'une logique top-down à une logique du type bottom-up où les populations de pêcheurs sont impliquées dans leur mode de gestion.
Ouais.
Voilà. Les acteurs locaux sont de plus en plus entendus dans les nouvelles politiques de pêche. Mais j'ai constaté qu'à Kayar, par exemple, avec l'intervention de l'État, à travers des comités locaux de pêche artisanale qu'on appelle les CLPA, en tout cas, c'est un peu. Les résultats, encore, ne sont pas trop. Ils commencent à démotiver, ils découragent de plus en plus du mode de gestion qu'ils avaient établi précédemment, donc, au départ. Quant aux guendariens, eux, qui étaient plutôt libre accès, la question de la surexploitation qui revient le plus souvent, la réalité des ressources qui devient de plus en plus visible, ils acceptent, eux, de plus en plus les règles qui leur sont imposées par l'État.
Mmh.
Voilà. Donc, ils acceptent de plus en plus les modes de gestion qui sont proposés par l'État. Donc, ce qui va bien sûr dans le sens de, si on revient sur Ardine, un peu mieux vaut une intervention de l'État pour lui que pas de règles du tout.
Ouais, ouais.
Voilà.
Finalement.
Mais là, ça fonctionne parce que c'est les biens, entre guillemets, que l'État a réglés ne sont propres juste à ces communautés-là, en fait. À partir du moment où il y a si ces biens-là étaient disponibles ou si d'autres États convoitaient ces biens-là, je ne suis pas sûr que ça se passerait aussi bien que ça, en fait.
Oui, donc c'est ça même qui fait un peu la complexité, encore une fois, de plus de ces communs globaux, parce que comme il y a certaines ressources halieutiques qui, en tout cas, qui migrent suivant la période et autres, donc d'où des fois une commission, disons même sous-régionale, un peu supranationale pour la gestion de ces ressources. Bien sûr que ça va entrer en conflit, donc voilà, mais cette question doit être abordée autrement au niveau régional ou sous-régional, mais on ne peut pas le gérer sous forme au niveau local, parce que ça dépasse le local et puis ça dépasse même l'État, la question étatique qui a été évoquée tout à l'heure. Ouais.
Mais est-ce qu'il y a des conflits avec des États, d'autres États que le Sénégal, qui auraient passé des accords de pêche avec d'autres États maliens ou occidentaux, européens ou autres, pour prélever, par exemple, une espèce, peut-être n'importe quoi, mais des crevettes ou telle sorte de poisson ou telle. tel fruit de mer. Est-ce qu'il existe des conflits comme ça?
Des conflits, oui. Mais là, on passe plus à la pêche industrielle, parce qu'il existe deux types de pêche. Il y a la pêche industrielle.
Oui, bien sûr. Et c'est les personnes dont tu nous as parlé, c'est pas de la pêche...
La pêche artisanale, en fait. Voilà, ça, c'est la pêche artisanale.
Pêche familiale, communale, quoi, pour la communauté.
Encore un peu plus loin, parce que leur pirogue dépasse les 13 mètres et... Et puis les débarquements, en tout cas la plupart des débarquements qui sont faits au Sénégal sont assurés par ces pêcheurs locaux. Là, on appelle la pêche artisanale ou la pêche piroguia. Ah oui. Voilà. Il y a aussi un autre type de pêche qu'on appelle la pêche industrielle ou qui fait intervenir les chalutiers. Oui, mais dans ce cas-là, il peut y avoir des conflits, par exemple entre le Sénégal est son voisin, un pays de la sous-région. Par exemple, en Guinée, la Guinée établit un accord de pêche avec la Russie, ils ont plein droit, bien sûr, dans leur zone de pêche, et que ces bateaux étrangers viennent dans le terroir, en tout cas dans le territoire sénégalais, oui, le plus souvent, ça crée des conflits entre États, un peu. Voilà, mais c'est juste des questions diplomatiques qui sont le plus souvent évoquées. Mais voilà, parce que en général, si on prend ces bateaux étrangers, ils vont dire bah, nous, on a signé un accord avec la Guinée. Mais bon, vous avez signé un accord avec la Guinée, mais vous n'avez pas le droit quand même de pêcher dans le territoire sénégalais. Donc c'est ça qui fait même la difficulté encore des communs avec des États qui n'ont pas suffisamment de moyens pour gérer, en tout cas pour surveiller leur zone des 200 000 pieds. Voilà.
Ben oui.
Ça, c'est un problème le plus souvent qui revient de manière redondante également. Mais c'est plus la pêche industrielle
qui prélève beaucoup.
Qui prélève beaucoup également, oui.
Et si la part de pêche industrielle était plus importante, est-ce que tu penses que le problème aurait pu être réglé comme ça au Sénégal?
En tout cas, la part des débarquements, en tout cas, c'est la pêche artisanale qui débarque le plus aujourd'hui comparé à la pêche industrielle, d'après les chiffres en tout cas, qui sont publiés par la direction des pêches maritimes.
Ok, bon, ouais. C'est dur.
Oui, mais après, est-ce que la pêche industrielle n'est pas destinée à d'autres pays et du coup, ça part et voilà quoi.
Bien sûr, mais comme les débarquements, le plus souvent, on impose que les débarquements soient faits
localement
et qu'il y a un centre de recherche qui gère tout cela.
D'accord.
Donc, pour la collecte des données, oui, donc ils sont recensés sur le territoire.
Même des chalutes. Des chalutiers,
bien sûr.
Ils sont obligés de donner ce qu'ils ont pu les tonnages de ce qu'ils ont pêché
au
Sénégal.
Voilà. Même les accords de pêche doivent bien définir le nombre de tonnes à pêcher, ainsi de suite.
Oui, après.
Parce que les accords sont définis suivant ces conditions.
Oui. D'accord. Moi, je pensais qu'ils pêchaient et rentraient chez eux.
Moi aussi.
Alors, du coup, il y a des quotas pour les...
Oui, mais bon, après... Il y a des ONG comme Grigui, il y a le plus souvent des rapports de comme Greenpeace qui dénoncent...
Il y a des passagers qui ont des passagers.
Oui, bien sûr que...
Ils
pêchent des fois plus que ce qu'ils déclarent. Et bien sûr que ça, c'est souvent évoqué dans les rapports de certaines ONG comme Greenpeace en 2015, qu'il avait évoqué également. Que ça dépasse de loin ce qui est déclaré, bien sûr. Oui. Donc ça entre dans cette question de manque de moyens, de surveillance ou même de volonté politique.
Oui, donc il y a des quotas pour les pirogues ou pour les familles ou pas forcément.
On va dans ce sens. Mais actuellement, le permis de pêche, en tout cas qui est délivré aux pêcheurs. Artisans ne prend pas en compte le nombre de quotas. Voilà, c'est juste une manière de les recenser. Hein. Voilà, c'est le permis de pêche qui a été instauré en 2006. Mais avant, la pêche artisanale était libre et gratuite au Sénégal. Mais c'est en 2006 qu'on a commencé à instaurer des permis de pêche pour ces pêcheurs artisans. Voilà, vu la pression qui est exercée sur les ressources de plus en plus. Maintenant, en 2015, il y a eu un nouveau code de la pêche qui prend en compte ces questions, les zones de pêche, le nombre de quotas à prélever, ainsi de suite. Voilà, mais ce n'est pas encore en exécution. On va dans ce sens-là, bien sûr.
Ce code de pêche-là, il est institué par l'État ou par les pêcheurs eux-mêmes ?
Non, c'est institué par l'État. Mais il y a aussi dans la gestion collective, comme par exemple à Caillard, que j'ai évoqué tout à l'heure, pour gérer les ressources, ils posent le nombre de caisses à pêcher par jour.
D'accord.
Voilà, donc, et puis à Guendar également, avec les Saint-Louisiens, il y a un système de rotation qui est également imposé. Parce que ces pêcheurs-là peuvent, par exemple, il y a un groupe de pêcheurs qui vont aller en mer aujourd'hui, le soir, il y a un autre groupe qui doit y aller, ainsi de suite. Ils commencent à s'organiser entre eux. D'accord. Ça, c'est plus une gestion communautaire qui se dessine.
C'est un partage.
Voilà, qui se dessine en bas, mais qui est supervisée, qui est gérée par les conseils locaux de pêche artisanale que j'ai évoqués tout à l'heure. Oui.
Et il y a d'autres ressources qui sont gérées comme ça au Sénégal ou c'est principalement que le poisson ?
Donc, à ma connaissance, comme j'ai travaillé sur la pêche, oui, d'accord, je connais sur la pêche, mais sinon, en tout cas, le Sénégal a toujours été présenté comme un pays pauvre en termes de ressources naturelles, hormis la pêche. Mais récemment, il y a eu une découverte du pétrole et du gaz dans ces zones même très sensibles, hein, des zones de pêche. Donc, oui, bon, peut-être après, mais pour l'instant, c'est la pêche qui est le principal pourvoyeur des devises même au Sénégal.
D'accord.
Ouais. Sinon, à côté de la pêche, il y a l'agriculture, il y a l'élevage, la pêche, oui.
Et, s'il y a du pétrole et du gaz, ça m'étonnerait que ça devienne un commun, en fait.
Oui, voilà.
Ouais, voilà, donc, en termes de ressources naturelles.
Avant de passer au commun par chez nous, juste ma question, c'était aussi, par exemple, vis-à-vis de l'agriculture, est-ce qu'ils peuvent avoir la même conscience, la rareté du poisson, que de l'eau, en fait ? Est-ce qu'ils ont la même façon de gérer l'eau et les terres, en fait ? Pour l'agriculture que
oui.
Le poisson.
En fait, cette question également vient de plus en plus aujourd'hui, parce qu'au départ, c'était pas une question assez pressante, vu que c'est une population de 16 millions d'habitants, et puis voilà, la question des terres et autres.
Ah non, mais d'une manière générale, la question des raretés des ressources
oui.
Partout sur la Terre, tout le monde s'est dit... tout va bien, reprenez, il y a ce qu'il faut. Donc.
Oui, mais quand même, c'est une question très intéressante parce que ça revient de plus en plus parce qu'il y a, par exemple, des Chinois, des étrangers qui viennent, je ne vais pas dire s'accaparer des terres, mais qui achètent pour faire de l'agriculture.
si.
Donc ça suscite de plus en plus des questionnements, des locaux, et ainsi de suite. Bien sûr que oui, c'est une question qui commence à se poser de plus en plus, parce que c'est une population qui s'agrandit également, on passe de 11 millions à 16 millions. Donc oui, ce sont des questions qui vont revenir, bien sûr, avec la croissance démographique.
Mais est-ce que c'est comme au Mali, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriété foncière, puisque c'était des populations, beaucoup de nomades, entre autres chez les Peuls, et qui laissaient paître les troupeaux un peu partout, mais avec le développement des maraîchages et des zones cultivées, ils ont de plus en plus de difficultés à emmener paître leur pâturage là où il y a de l'herbe. Enfin, moi, je suis allée au Mali, je parle de ça pour le Mali, qui est une zone beaucoup plus désertique. Et le nord du Sénégal aussi, je suppose.
Non,
mais il n'y avait pas de propriété foncière au Mali, parce que quand je suis allée faire une mission à Nioro, on m'a dit... Tu veux une maison ? Tiens, tu prends le terrain, construis ta maison.
Oui. Mais bon, cette question, quand même, ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne se posait pas avec autant d'acuité. Hein. Mais de plus en plus, oui, on commence à évoquer ces genres de questions. Oui, en termes de propriété, oui, il y a des propriétés foncières, hein, des gens qui achètent leur terrain et qui sont propriétés, qui ont leur droit de bail ou leur titre foncier de leur lieu d'habitation ou de leur lieu de pâturage. Hein, ça existe bien. Mais quand même, comme dans les villages où sont les plus souvent campés l'élevage et autres, c'est pas une question qui revient le plus. En tout cas, sinon, en termes de particulier, voilà, ça peut se poser un problème du genre de l'élevage qui entre dans d'autres zones. Ouais.
Ok. Je vous propose une petite coupure musicale et après on aborde les communs chez nous, comme l'air, l'eau et tout ce qui s'ensuit.
Allons-y.
Allez, à tout de suite.
Dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mâles vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause et troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient,
va vite
faire quelque chose de tes mains,
ne te retourne pas
si tu n'as rien,
et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre, dis-toi qu'au bout il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saigne? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil.
Sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. J'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots, servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey.
Alors, en parlant de tout ça, l'eau, on pourrait croire que, alors c'est un bien commun, c'est une ressource qui est présente sur Terre et qu'on pourrait tous en jouir librement, si je puis dire, chez nous. Et c'est pas le cas à l'heure actuelle. Pourquoi ?
Alors, il doit y avoir plusieurs cas et pas un seul. Moi, j'avais cité le cas au Mali où j'étais avec un ingénieur agronome qui avait fait un maraîchage et qui arrosait son maraîchage. C'était à Nioro du Sahel, donc en pleine zone assez désertique et chaude. Il arrosait son maraîchage et les habitants de la ville à côté, ben, voyez le puits de plus en plus se tarir. Ils n'avaient plus d'eau pour eux boire. Donc là, c'est l'accaparement par un seul.
D'accord, mais d'une manière générale, On a pas mal de sources sur Terre où on pourrait tous avoir de l'eau au robinet qui vient de cette source-là, et on a pas mal de grandes compagnies qui s'accaparent cette eau-là, on va dire gratuitement, parce qu'elle est disponible gratuitement. Personne ne leur vend au départ cette eau-là, elle apparaît comme ça. Et eux, ils se l'accaparent pour la mettre en bouteille et nous la vendre. Est-ce que l'eau ne devrait pas être gérée comme un bien commun ?
Non, mais bien sûr que si, qu'elle devrait être gérée comme un bien commun, et c'est totalement immoral, je ne sais pas si on peut, il y a peut-être d'autres termes, mais que ce soit une entreprise qui se l'accapare et que du coup on soit obligé pour approvisionner la ville de Vittel en eau potable, de faire venir cette eau de plusieurs kilomètres alors qu'il y a une ressource... sur place. Mais c'est vrai aussi dans plein d'endroits. Coca fait pareil, même dans des pays où la ressource en eau est vraiment faible.
En Inde, ouais. Ils pillent toute l'eau.
Nestlé au Pakistan.
Ouais. Moi, ce qui me fait peur, c'est que vu qu'on tolère ça avec l'eau, je me demande quand va-t-on nous faire la même chose pour l'air, en fait.
Bonne question.
Parce que l'heure actuelle, on pourrait se dire que c'est un bien commun, jusqu'au jour où on pourrait se faire face à un air trop pollué, admettons par une entreprise X, et qu'on demande à une entreprise Y de filtrer l'air qui mettra en bonbonne et qui nous la revendrait après.
Non, peut-être pas quand même en bonbonne, mais je pense que, tu vois, il y a peut-être un moment où on arrivera à, comme on met la climatisation chez soi, avoir des filtres à air pour pouvoir respirer l'air. Au lieu d'ouvrir ses fenêtres, on mettra des filtres pour que l'air intérieur soit moins pollué que l'air extérieur, en fait. Donc, ça peut être une dérive.
L'espace public, je me suis posé la question en venant, Jean, est-ce qu'on peut considérer que l'espace public est un bien commun ?
Ben non, j'ai pas trop d'idées. Je sais qu'il y a des communs dans les villes, donc les places qui peuvent devenir des communs. Ça a été le cas sur la place Taksim en Turquie, enfin Istanbul précisément. Ça a été le cas des indignés en Espagne, etc. Je sais que les occupations de logements peuvent devenir des communs, donc du coup il n'y a pas de propriété. Hein, comme avait dit Wally, c'est pas forcément une propriété collective. Quand les gens occupent donc un immeuble, ils ne sont pas propriétaires, et pourtant ça peut créer du commun s'ils le gèrent ensemble. Il y a les parcs, donc oui, il y a plusieurs possibilités de créer du commun en ville. Hein, donc il y en a même de plus en plus qui le font.
Ouais. Ma question, c'était même pas de savoir si on pouvait en créer, si ça avait été fait, c'était... même de manière non officielle, en fait, est-ce que quand je vais dans la rue, quand je suis dehors, est-ce que, enfin, je suis sur Terre, est-ce que c'est pas un lieu commun, en fait, un lieu qui appartient à tout le monde ? Ma question, c'est plus dans ce sens-là, en fait, parce que quand je me balade dans la rue, où je peux partir du principe que la rue appartient à tout le monde, parce qu'elle appartient à personne, je me rends compte que c'est le contraire. J'arbore les trottoirs entre tous les panneaux publicitaires. Et les terrasses de café. Alors là, par exemple, si vous allez entre Boulingrin et l'Hôtel de Ville, sur même Place d'Erlon, on ne circule plus sur les trottoirs, en fait, parce que les terrasses de café donc, se sont tout appropriées. Et je me dis, mais tiens, il y avait un espace public que moi, je considérais à tort comme un lieu commun où tout le monde pouvait jouer. Et en fait, je me trompe, hein. Je me trompe.
Bah, en fait, c'est plus un commun parce qu'on n'a plus... les citoyens ne sont plus impliqués dans la gestion de ce lieu-là. On ne nous a pas demandé si on voulait des terrasses plein la place d'Erlon. Ce qui est... Je plains les gens qui ont des commerces place d'Erlon parce que du coup, c'est vraiment pas un lieu où tu as envie d'aller faire du shopping parce que tu passes que au milieu des terrasses. Et c'est vrai que je pense qu'au départ, l'espace public est un commun, mais sauf que comme il est géré sans demander aux utilisateurs ce qu'ils en pensent, du coup, c'est, ça devient... puis là, c'est de plus en plus privatisé, quoi.
Je pense que le commun, l'idée, que ça, c'est quand même qu'il y ait une gestion collective. Donc, sur quand tu vas te balader en ville, tu es tout seul et tu n'as pas dans l'idée de gérer collectivement donc le lieu public. C'est un lieu public, mais ce n'était pas forcément au départ un lieu commun.
Non, mais peut-être qu'il faudrait que ça le soit.
Oui, voilà, je pense que ce serait logique que ça le soit.
Comme pour l'eau,
c'est possible, comme,
pour,
comme les comme... parcs, etc. Non,
si c'est rival, oui, mais c'est un bien public. Un bien public est différent d'un bien commun. Voilà. Ici, on est plus dans un bien public. Un bien public n'est pas, en tout cas, n'est pas rival.
C'est-à-dire que si tu vas te balader place d'Erlon, en fait...
Non, la personne te dira, oui, il ne faut pas se placer.
Tu n'empêches personne d'aller se balader place d'Erlon.
Non, mais une terrasse de café qui se met sur tout le trottoir m'empêche de
me balader. C'est une privatisation
de l'espace public. Là, c'est un autre type de bien, c'est un bien privé dans ce cas-là.
Enfin, je pense que c'est un bien public qui a été privatisé ou qui, que quelqu'un s'est accaparé à un moment donné, de manière officielle ou pas.
Non, pas dès après, mais bon. En tout cas, les dispositions actuelles, on peut dire que oui, c'est un bien privé, dès lors que c'est rival et exclusif. Parce que je ne peux pas aller dans un bar comme ça, il faut que je paye.
Et puis maintenant,
la consommation.
Maintenant, c'est encore pire.
Voilà, donc ça, c'est un bien privé.
C'est marrant parce qu'à l'heure où toutes les ressources se raréfient sur Terre, à l'heure où on devrait gérer peut-être de plus en plus tout en commun, en fait, on privatise de plus de tout, en fait. Et je me demande à quel moment ça a basculé ou comment on devrait faire pour réfléchir en termes de commun pour beaucoup de choses, en fait.
Bah, le commun n'intéresse pas les entrepreneurs... Les grandes entreprises, les multinationales et tout ça, eux, ce qui les intéresse, c'est de s'accaparer tout. Et après.
Et puis le commun permet aux gens de parler, de discuter, de réfléchir aussi, et puis peut-être d'évoluer dans leur perception de la politique même. C'est peut-être pas ce que les gouvernements veulent. Il vaut mieux les mener par le bout du nez.
Oui, il vaut mieux diviser pour mieux régner que d'encourager le développement des communs, en fait.
C'est vrai que si tu laisses le temps... Alors, je pense que c'est ce que... Enfin, les personnes manquent surtout de temps. Si tu laisses les personnes du temps pour réfléchir, probablement qu'elles en arriveront aux mêmes questions et qu'elles s'apercevraient que le commun est une très bonne chose pour gérer... beaucoup de choses qu'on partage. L'information, par exemple, c'est... est-ce que l'information, le droit à l'information, est un bien commun ?
Oh. Alors là, c'est large. Ça peut faire débat, surtout, d'autant qu'en France, tout le système d'information est détenu par les 10 plus grosses fortunes. Donc là, c'est plus un bien commun du tout, quoi.
Je mets l'information avec Internet.
Oui, ça peut être un bien commun. Parce que le commun aussi peut être matériel comme immatériel.
Oui. Voilà. Et justement, alors je me mets en parler avec Internet qui a permis d'avoir accès à une foultitude d'informations partout sur Terre. Mmh. Et avec le temps, il y a de plus en plus de verrous qui se sont mis sur Internet et donc sur l'information, empêchant des personnes d'avoir accès à certaines informations ou en favorisant d'autres informations. Et du coup, je me dis... Internet était magique parce qu'il permettait, il amenait l'information pour le commun de tout le monde et maintenant ça le dessert un peu. Maintenant, à l'heure actuelle, dès que vous voulez avoir accès à une information sur Internet, vous devez vous enregistrer sur une plateforme X ou Y et cette plateforme-là est libre de vous interdire l'accès ou pas à une information. On a même des sociétés privées. Pour ne pas citer Facebook ou autres, qui sont rémunérés pour vérifier des informations. Mais qui va vérifier ce que fait Facebook ? Est-ce que l'information est en train aussi d'être privatisée ? Et elle nous échappe totalement.
Alors là, je pense que ça va même au-delà de ça. C'est que là, l'information, elle est muselée de sorte à ce que... on n'arrive à nos cerveaux que ce que... les gouvernants veulent qu'on entende, quoi, je veux dire, ou qu'on voit, ou qu'on... Là, c'est, on arrive à un point où c'est la pensée unique. Dès qu'on se sert de ses neurones pour réfléchir à une situation et qu'on n'est pas d'accord avec la pensée unique, on se fait traiter de complotiste. Et en fait, là, l'information, on a tendance à nous servir une soupe qu'il faudrait avaler comme ça sans réfléchir, mais c'est pas ça, normalement. Quoi, il faut vraiment garder son esprit critique et, pour pas se laisser... quoi. Après, on est bien obligé un peu de suivre le mouvement quand même, mais c'est vrai que là, rien n'est fait pour encourager l'esprit critique. Quoi, et celui qui pense un peu de travers est vite mis au banc de la société.
Il y a quand même des biens communs au niveau d'Internet, Wikipédia, tout le monde peut avoir accès, les logiciels libres.
Je ne suis pas d'accord, tout le monde n'a pas accès à Wikipédia.
Si on n'a pas de...
Non. Tu peux t'arranger, tu peux définir que telle catégorie de personnes se trouvant sur table n'ont pas accès à Wikipédia. Je suis désolé.
Oui, un État peut censurer.
Non mais voilà. C'est, donc je suis d'accord avec toi, mais la philosophie du Wikipédia, je suis entièrement d'accord. Mais à partir du moment où tu laisses quelqu'un contrôler tout ça, et que c'est pas le commun, et ben tu peux assister à toutes les dérives. Alors, je crois qu'on a encore beaucoup de choses à dire, mais je vois le temps qui passe, donc on va devoir s'arrêter là pour les communs. Avant de se quitter, alors un peu d'actualité. Moi, je voulais vous dire que donc du 12 au 25, c'était la semaine internationale du revenu de base. Alors, pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, ce sujet fera l'objet d'une prochaine émission. J'en profite pour vous inviter à signer l'initiative citoyenne européenne pour obtenir un revenu de base inconditionnel suffisant. Pour cela, rendez-vous sur ice.mfrb.fr. Personnellement, un revenu de base permettra d'avancer beaucoup pour la gestion des communs, justement. Sinon, actualité, le 13 octobre sort Debout les femmes, un film de Ruffin. En pleine crise du Covid, le président de la République, on se rappelait, déclarait « Il faudra se rappeler que notre pays tient tout entier sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal ». Et en fait, ce film vient le rappeler justement parce que le président, lui, l'a déjà oublié et il voudrait qu'on oublie tout. Donc nous, on a eu la chance de le voir en avant-première et sincèrement, il est vraiment, vraiment très chouette.
Alors, il y a aussi jusqu'au 9 octobre, la semaine du développement durable, qui dure un peu plus d'une semaine. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de la ville de Reims, voir ce qui est proposé. Et puis, toujours pour les personnes qui tiennent à leur liberté, les marches et les pique-niques anti-pass sanitaire. Donc les marches, c'est le samedi après-midi à partir de 14h, rassemblement au Boulingrin. Et puis les pique-niques, c'est le mardi soir, installation à 19h30, place d'Erlon. Tant que le temps le permet, je pense.
Ok, et ben merci à tout le monde.